Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Il était l'adversaire mythique de Napoléon et en même temps son cousin pauvre, celui que Bonaparte défie dans le fameux film d'Abel Gance au terme d'une folle poursuite à cheval. Lamartine disait de lui qu'il était doué de l'extérieur le plus noble, de l'élocution la plus pénétrante et la plus passionnée, des manières les plus simples et les plus élégantes, militaire, diplomate, publiciste, homme de plaisir et d'affaires tout à la fois, un de ces hommes dont le mérite et le charme éclatent aux yeux dès le premier regard. De son côté, Adolphe Thiers estimait, je cite, que « Dieu lui avait accordé une sorte de génie aussi admirable que celui des batailles, le génie de la politique. Cet homme, peut-être l'aurez-vous reconnu, s'appelle Pozzo di Borgo. Avec une forme de détachement, il disait de lui « Moi, comme bien d'autres, nous serons des planètes secondaires autour du grand soleil Napoléon. » Mais il ajoutait immédiatement après « Du grand soleil Napoléon, soit qu'il est vivifié ou brûlé tout le monde. » Storia Voce vous propose de partir à la découverte de ce personnage fascinant qui courra l'Europe de Paris à Saint-Pétersbourg, de Vienne à Londres. Qui était Carlo Andrea Pozzo di Borgo? C'est ce que nous allons voir avec Michel Verger-Franceschi. Michel Verger-Franceschi, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se connaît de longue date, du temps de Canal Academy. Vous avez fait plusieurs émissions avec moi, notamment une émission consacrée sur la mer et une autre consacrée sur Henri le navigateur. Ce sont deux ouvrages qui viennent d'être réédités en poche et que je conseille à nos auditeurs, donc aux éditions du Félin.
Merci.
Et vous venez de publier donc chez Payot, dans la collection Biographie, Pozzo di Borgo, l'ennemi juré de Napoléon, un ouvrage préfacé de Jean Tullard. Alors c'est un personnage qui est absolument fascinant, il y a de nombreuses citations sur lui, vous les donnez au début de votre ouvrage, et la première chose qui est étonnante, c'est que c'est un personnage unique pour les historiens, d'abord parce qu'il y a énormément de sources sur lui, et ces sources sont disparates, sont dans toute l'Europe.
Tout à fait. Pozzo di Borgo, il occupe le terrain pendant toute la durée du règne de Napoléon et un petit peu auparavant en Corse à partir de la Révolution. C'est un homme qui est né comme Napoléon, non pas à Ajaccio, mais juste à côté d'Ajaccio, à moins de 5 kilomètres sur la petite commune d'Alata. Et il est apparenté plusieurs fois avec Napoléon, puisque aussi bien Carlo Bonaparte, l'avocat ajaccien, le père de l'empereur, que Letizia Ramolino, la mère de Napoléon, descendent tous les deux des Pozzo di Borgo. Donc ils sont cousins plusieurs fois, mais ce sont des cousins de familles d'essence différentes. Ça, c'est assez curieux. C'est-à-dire que les Bonaparte, ce sont des Ajacciens, mais arrivés en Corse depuis peu. Si on se replace dans le contexte du 17-18e siècle, les Bonaparte, ce sont des Toscans qui sont arrivés de San Miniate en 1511 environ, dans cette ville nouvelle d'Ajaccio, 500 habitants à l'époque. Alors que les Pozzo di Borgo, ce sont vraiment des insulaires, ce sont des Corses très anciens et ils ont souffert visiblement de génération en génération de l'hostilité de ces étrangers qui étaient dans les présides, Ajaccio, Bastia, Bonifacio et Calvi. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des villes génoises sur le sol corse et les Corses ne pouvaient pas entrer dans ces villes, même lorsque les barbaresques se montraient sur les collines d'Alata. Il fallait demander l'autorisation à des Toscans et à des Génois, Bastiais ou Ajacciens pour entrer dans ces villes fortifiées. Donc il y avait une animosité certaine. La deuxième raison de l'animosité, c'est évidemment que les Bonaparte réussissent dans une petite ville, 4500 habitants à Ajaccio, lorsque Napoléon est né, qui est un port de commerce relativement important à l'échelle de la Corse. Et les Pozzo, c'est un petit peu le rat des villes et le rat des champs. C'est une vieille famille noble, très ancienne, mais appauvrie. Le père de Charles André, l'ambassadeur, donc Carlo Andrea, il est plus ou moins berger. Et lorsqu'il a ce ce fils de 12 ans à faire élever, il est évident que on va faire des pieds et des mains pour se rapprocher avec le couple des parents de Napoléon, de façon à pouvoir envoyer le fils dans une ville où il y a eu, jusqu'à leur expulsion, un collège de jésuites et où il y a par conséquent des pères qui sont très savants, comme on le disait à l'époque, pour élever Charles-André. Et donc, Charles-André va partir un petit peu comme interne chez les parents de Napoléon et du coup, il va se trouver élevé à l'étage au-dessus de celui de Napoléon. Ils ont 5 ans d'écart, lui est né en 1764 et Napoléon en 69. Ils ont 5 ans d'écart et il ne va pas loger dans l'appartement de l'avocat Carlo Bonaparte, il va loger chez des cousins encore, Pozzo di Borg à l'étage d'en dessus, mais il va manger chez Madame Mère, comme le dira Napoléon plus tard, que c'est un ingrat qui a été nourri par Madame Mère pendant des années à Ajaccio, et c'est vrai, il a été nourri par Madame Mère. Et alors ces 5 années de différence, elles sont importantes, parce que lorsqu'ils arrivent en 1789, ils ont 20 et 25 ans, et ces 5 années sont importantes parce qu'il y en a un, Carlo Andrea, qui peut être élu parce qu'il a l'âge député à l'Assemblée législative, alors que Napoléon n'en a que 20 et il n'a pas les 25 ans requis.
Alors nous allons reparler bien évidemment de la rivalité entre ces deux personnages, mais peut-être rester sur les origines. Vous montrez bien que le fait qu'il soit originaire de ce que vous en faites, vous avez utilisé l'expression de ras des champs, c'est une famille catholique. Alors que chez les Bonaparte, ce n'est pas si évident que cela.
C'est vrai. Le père de Napoléon, a été initié dans la maçonnerie, le frère de Napoléon, Joseph, aussi. Alors que chez les Pozzo di Borg, on vit avec une foi catholique chevillée au corps. D'ailleurs, chez les Pozzo, on combat le Turc volontiers et Pozzo le fera lui-même au cours de sa vie en combattant l'Empire ottoman. Le premier tombeau de famille de la famille Pozzo di Borg se trouve entre Ajaccio et les îles Sanguinaires. C'est aujourd'hui la très jolie chapelle des Grecs, mais c'est le premier tombeau de famille créé en 1629-1632 pour les Pozzo. Et donc il y a une différence évidemment entre la tolérance du père de Napoléon en tant que maçon et l'ouverture d'esprit de ce Carlo Bonaparte qui a fait son doctorat à Pise, qui a pu faire des études, et le père de l'ambassadeur, donc Pozzo di Borg, qui lui est toujours resté dans sa maison d'ailleurs très modeste d'Alata, qui n'a rien à voir avec l'actuel château de la Punta qui a été construit par les Pozzo di Borg qui ont été faits ducs napolitains, mais uniquement au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire après la mort de l'ambassadeur. Mmh. Et donc les deux hommes, Napoléon et Pozzo, à vie vont se tenir, parce qu'il y en a un qui a peur que l'on dise à Metternich, que l'on dise au tsar, ce n'était que le fils d'un berger, et donc Pozzo ne voudrait pas être humilié avec ce genre de commentaires. Mais Napoléon, de son côté, il ne faut pas oublier qu'en 1778, il est parti au collège d'Autun, il est parti à Brienne, donc il ne sait pas ce qui se passe dans la maison et dans le couple de ses parents. Et il y a des ragots à Ajaccio.
Il y a des secrets de famille.
Il y a des secrets, et on prétend que les mauvaises langues, du moins, le disent, que Laetitia, qui est une très jolie femme, la plus jolie femme de Corse, serait la maîtresse donc du vieux gouverneur de Corse qui est le comte de Marbeuf. Et donc, il y en a un qui a peur que l'on dise que sa mère était une femme peut-être volage et infidèle. Je ne le crois pas, mais il a peur que l'on dise ça. Et l'autre a peur que l'on dise que son père était berger. Et c'est extraordinaire de voir dans les mémoires, par exemple, de la fille de Metternich qui dit la première fois qu'on les voit tous les deux, que ce soit à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Dresde, à Vienne, à Berlin, ils commencent tous les deux à parler de leur histoire de famille. Et donc les deux hommes se tiennent, et le diplomate russe Ouvarov le dira, il y a des secrets de famille entre ces deux hommes qui fait qu'à la mode corse, évidemment, on ne parle pas, on respecte.
Je vous cite, mort sans avoir parlé, mort au pluriel, tous les deux morts sans avoir jamais parlé, jamais jusqu'à la mort, c'est corse, c'est très corse, et c'est beau, c'est très très beau, c'est ce que vous écrivez, vous êtes vous-même, vous-même Corse, Michel. Alors, revenons précisément à la Révolution. Est-ce que, Pozzo, vous soulignez la différence d'âge entre Napoléon et lui? Est-ce que Pozzo a un temps d'avance sur la Révolution par rapport à lui, et quelle est son approche de la Révolution? Que signifie le mot Révolution française pour un Corse à l'époque?
Alors, tout à fait. Quelle est la signification de la Révolution en Corse en 1789? Eh bien, elle passe par une figure emblématique. Cette figure emblématique, il est évident que c'est Pascal Paoli. Et donc, tous les deux n'ont jamais vu Pascal Paoli, qui a été le chef d'une Corse quasi indépendante de 1755 à 69. Cette Corse s'est trouvée envahie par les troupes de Louis XV, et les troupes de Louis XV ont battu, alors je ne dis jamais les troupes françaises pour ne pas faire d'amalgame, je préfère dire les troupes royales. C'est Louis XV qui est battu, qui va battre en 1769 Paoli, plus que la France. Parce que Paoli, en 1769, il est évidemment contre la monarchie absolue, il est contre Louis XV et il représente le résistant. Et il est évident que Pozzo et Napoléon, eh bien 20 ans après, ils sont dans l'adoration de ce personnage qui est Paoli, mais qui n'est plus opposé à la France de 89, parce que c'est plus la même France. C'est une France révolutionnaire, c'est une France où le roi va devenir d'ailleurs roi des Français et non plus roi de France et de Navarre, donc c'est plus tout à fait la même approche. Et Paoli, il incarne donc la résistance à l'occupation des troupes royales de Louis XV. Alors c'est un peu comme 1945. On préfère dire qu'on est fils de résistant que fils de collabo. Et donc, il est évident que Napoléon, il regarde comme père spirituel, eh bien, Paoli, et non pas son père. Parce que son père, Carlo Bonaparte, s'est rallié à Louis XV très tôt, a demandé en 1771 à être maintenu dans sa noblesse. Le père de Carlo Andrea Pozzo di Borgo a été aussi maintenu dans sa noblesse, mais 3 ans après. Alors là, on imagine les hivers à la table devant la cheminée, on se dit quand même, ces Toscans, ils sont maintenus nobles en 71, tout l'hiver 72, toute l'année 73, toute l'année 74, on doit sentir la colère qui monte chez les Pozzo di Borgo, et en 74, enfin, ils ont été maintenus nobles. Et alors, tous les deux, en 89, ils ont 20 et 25 ans, ils sont dans l'adoration de Paoli. Mais il y en a un, Napoléon, qui n'est pas très bien vu par Pascal Paoli. Il n'est pas très bien vu parce qu'on lui reproche finalement ce père qui s'est rallié trop tôt à Louis XV. Alors que Pozzo, il a un oncle paoliste qui a été tué dans des émeutes paolistes qui ont eu lieu à Ajaccio en 1763. Et donc, c'est le neveu de ce vieux prêtre paoliste. Et il a donc la préférence dans la vie de Paoli. Et Paoli va donc faire le choix pour des raisons d'âge, il a 25 ans, mais aussi pour des raisons d'affinité. Il va faire le choix de Pozzo contre Napoléon.
Alors, aux États généraux, que demande la Corse? Est-ce que la Corse représente quelque chose?
Oui, alors c'est très curieux, il faut insister là-dessus, c'est que la Corse n'est pas devenue française sous Louis XV, contrairement à ce que l'on croit en 1768. Elle n'est pas devenue française suite à la défaite paoliste de 1769. Elle est devenue française par décret, le décret du 30 novembre 1789, lorsque les 6 députés corses ont demandé à l'Assemblée nationale le rattachement de la Corse à ce que l'on appelle à l'époque, c'est pas Napoléon, mais on l'appelle déjà l'Empire français. Et donc, ils font cette demande à des députés de l'Assemblée nationale. Ce député, c'est Mirabeau. Alors, Riquetti Mirabeau, c'est un nom d'origine provençale, c'est la région de Pertuis, etc. Mais il faut pas oublier que l'arrière-grand-mère de Mirabeau était corse, elle était du Cap Corse. Et Mirabeau lui-même dit que lorsqu'il a fait la campagne de 1769, on l'appelait le comte de Cazinque et qu'il parle le corse. Et donc, c'est Mirabeau qui, à l'Assemblée, fait voter ce décret de rattachement de la Corse à l'Empire français. Et Paoli s'en réjouit, parce que Paoli, il porte les idées des Lumières en 1789 et il les porte bien avant 1789, puisqu'il avait créé ses idées de liberté, égalité, fraternité dès les années 1755 en Corse, au point que le Robespierre l'accueille à Paris en lui disant « Monsieur, vous avez inventé la liberté à une époque où nous-mêmes, nous n'osions même pas prononcer son nom. » Et donc Paoli, qui avait évité la France en 69 pour partir en exil
à Londres, eh bien, il fait un retour triomphal en France, il la découvre en 89, et il va traverser Paris, il va rencontrer évidemment Lafayette, qui est maçon comme lui, Mirabeau, qui est également maçon, le maire de Paris, qui est Bailly, qui est le premier directeur du Louvre, et il fait une descente triomphale jusqu'à Lyon, puis de Lyon à Marseille, et à Marseille, qui l'attend, les frères Bonaparte et Pozzo di Borgne. Et à partir de ce moment-là, on a une lutte entre les Bonaparte et les Pozzo pour séduire le vieux chef. Ce vieux chef de 65 ans face à deux presque adolescents, hein, 20 et 25 ans, deux très jeunes gens qui essayent évidemment de se poser en héritier de Paoli. Et celui qui va gagner du côté corse, c'est Pozzo.
Alors, justement, il y a trois vies, Pozzo a trois vies. La première, c'est la vie corse. La deuxième, c'est la vie de député. Oui. Et la troisième, c'est celle de diplomate. On ne peut percer que si on se crée un réseau. Et oui. Pozzo arrive à se créer, à monter ce réseau à Paris. Comment est-il considéré et quelle est sa place sur l'échiquier politique?
C'est extraordinaire que ce jeune homme qui est élu à l'Assemblée législative et qui a 25-26 ans, qui ne parle pas un mot de français, arrive à l'Assemblée nationale, apprend le français sur le tas, en écoutant les discours des députés français, et il se débrouille tellement bien qu'il finit par rentrer tout de suite au comité diplomatique. Il n'y a pas l'ENA à l'époque, donc il faut bien faire une formation de diplomate quelque part, et c'est au comité diplomatique de l'Assemblée nationale qu'il commence à comprendre comment fonctionne la diplomatie. Et il va rester donc député en 90-91. Il est très proche notamment de Mirabeau, qui le reçoit à différentes reprises. Il est proche ensuite du ministre de la guerre Dumouriez. Alors ça aussi, ça le conforte dans sa formation de futur diplomate européen. Et il commence à voir les émeutes révolutionnaires à Paris, 91-92. Il rentre en Corse et il dit à Paoli: je ne veux plus être élu à la Convention parce que Paris, par rapport évidemment à Corté, c'est l'effervescence, ce sont les émeutes. Et à partir de ce moment-là, notamment avec la Convention, avec la terreur, à partir de 93, eh bien, Paoli et surtout Pozzo vont se séparer de cette jeune République française qui vient d'être déclarée en septembre 92, parce que la République, c'est aussi à ce moment-là la terreur, ce sont les noyades de Nantes, c'est l'échafaud, et Paoli et Pozzo le dit dans ses mémoires, on ne veut pas qu'il y ait d'échafaud en Corse. Et lorsqu'il voit arriver des volontaires marseillais en 93 qui vont pendre à Ajaccio deux Corses, puis qui vont jeter les cadavres à la mer, à ce moment-là, ils vont faire le choix de l'Angleterre. Ce que l'on peut à l'époque comprendre, bon, ça a coûté à Pascal Paoli l'impossibilité aujourd'hui d'avoir une rue ou une place à Paris, et c'est dommage parce que on a dit à la municipalité de Paris il y a quelques années, en 2007, qu'on ne pouvait pas donner le nom de quelqu'un qui avait été condamné à mort par la Convention, ce qui est le cas de Paoli et ce qui est le cas de Pozzo di Borgne. Mais en 94, il faut bien voir que Toulon se donne aux Anglais. La flotte de l'amiral Hood, elle est finalement très près de Bastia. Il était donc tentant pour Pozzo et Paoli de faire appel à la même flotte de Hood et de créer un régime unique qui n'a duré que deux ans, qui est le royaume anglo-corse de 94 à 96. George III d'Angleterre est roi d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse, etc., mais aussi roi de Corse pendant deux ans. Et on a, à partir de ce moment-là, un divorce entre Pozzo, qui est le jeune politique un peu comme aujourd'hui, aux dents longues évidemment, donc il a 26-27 ans, il voudrait arriver au pouvoir, et il ne faut pas oublier qu'on a un Paoli qui a 70 ans, ce qui est énorme pour l'époque, que l'on porte sur une chaise paillée lorsqu'il doit faire des discours sur les places publiques à Corté, qui a été très malade l'année 93-94, on a pensé qu'il avait failli mourir, et donc entre le septuagénaire qui va avoir 70 ans en 1795 et le jeune loup, il est évident que c'est Pozzo qui joue à fond la carte anglaise,
parce que elle lui ressemble. Il est noble, donc servir un roi, c'est merveilleux. Paoli, les petits-fils de Meunier, donc servir la République, c'était beaucoup mieux. Paoli, il était pour la constitution civile du clergé, alors que Pozzo, qui est très catholique, évidemment, il joue une carte religieuse, mais c'est une erreur, parce que les Corses disent, la Corse, elle est catholique, et l'Angleterre, elle est hérétique. Faire le choix donc d'un pays protestant n'était pas une bonne idée, et on finit par pousser gentiment Paoli dehors de Corse en 96. Il va partir pour son dernier exil à Londres où il va mourir d'une bronchite en 1807 après un exil à nouveau de 11 ans. Et Pozzo ne peut pas se maintenir en Corse parce que les populations le trouvent trop réactionnaire et le dernier arrêt qui est voté par le Parlement anglo-corse, c'est le rétablissement de la dîme en 1796, ce qui est assez extraordinaire. Et il n'y a plus qu'une solution, c'est d'embarquer sur l'escadre de Nelson et de là, gagner l'île d'Elbe, puis l'Espagne, puis l'Angleterre.
Alors, je vais revenir à la période quand même de la députation, parce que vous présentez un personnage assez tôt comme ayant, j'allais dire, tous les caractères du diplomate. Je vous cite, ce qu'il aime, ce ne sont ni les chevaux, ni la poudre, ni les champs de bataille. Loin de la fumée et des combats, il aime la scène, le spectacle qui se déroule devant lui grâce à de lourds rideaux qui montent ou qui descendent, et ce, grâce à des ficelles. Soudain, le spectacle apparaît, soudain, il disparaît grâce à elle. C'est avant tout un politique, un diplomate. Mais ceci très tôt, c'est-à-dire très qu'il tôt. Montre ses caractères, ce caractère très tôt.
Très tôt, à 25-26 ans, par rapport à ce que va devenir Napoléon, évidemment le maître du monde grâce à la grande armée, eh bien, Pozzo, c'est un diplomate et plusieurs fois, il dit qu'il regarde le monde en spectateur et il se met en scène et il regarde effectivement ce qui se passe sur cette scène à condition que ce soit lui qui tire les ficelles. Et il va tirer effectivement les ficelles dans cette Europe qui est en train de basculer vers le directoire, vers le consulat, vers l'empire et pendant 10 ans il ronge son frein. Il faut bien voir qu'après la condamnation par la Convention en 94, jusqu'en 1804, ce personnage n'est rien. C'est un émigré condamné à mort par l'Assemblée et il va vivre au crochet de celui qui l'a bien servi pendant 2 ans, c'est-à-dire le gouverneur écossais de Corse qui est Sir Elliot. Et pendant ces 10 années, 1794-96, 1804, il est nourri, logé, blanchi par le couple Elliot. Que ce soit à Londres, que ce soit dans leur château, Elliot deviendra Lord Minto en Écosse, que ce soit dans leur château près d'Édimbourg, et il vit au crochet donc du couple Elliot. Et alors en 1804, évidemment, il faut se mettre un petit peu à la place de Pozzo, regarder aujourd'hui ce que fait le fils de vos voisins d'en dessous. Eh bien, Pozzo en 1804, le fils du voisin d'Ajaccio, le fils de l'avocat ajaxien, il est sacré, il est couronné empereur des Français. Et alors à ce moment-là, il écrit aussitôt au ministre des Affaires étrangères de Russie, Razoumovski, et il a 40 ans, et il fait une lettre, et c'est tout à son honneur, qui raconte réellement, dans un détail très précis, sans aucune fioriture, il raconte vraiment ses 40 premières années de sa vie, et il se met au service de la diplomatie russe, en disant « En Angleterre, on ne me veut pas parce qu'on se méfie. Les Corses, ils sont tous cousins entre eux, ils s'entendent tous bien entre eux. Et donc, vous êtes le cousin de Napoléon, est-ce que vous n'allez pas tourner kazakh, évidemment, au bout d'un certain temps ?» Donc, Elliot lui dit « En Angleterre, vous n'avez aucune chance, mais jouez la carte russe sans parler un mot de russe. » Alors, heureusement, la diplomatie, à l'époque, se fait en langue française, et il va donc partir sur les routes de toute l'Europe à partir de 1804.
Alors, il y a un mot qui ressort de votre ouvrage, même si je crois que vous ne l'utilisez pas, c'est celui de cosmopolitisme. Il y a une aristocratie. On a du mal à se représenter cela aujourd'hui, alors que nous vivons à l'ère de l'État-nation. Mais à cette époque, il y avait beaucoup plus de réseaux internationaux. Vous le montrez, je reviens un peu en Angleterre, malgré tout. Vous le montrez notamment reliant le réseau jacobite international, ce qui lui permet d'intégrer la société anglaise-écossaise.
tout à fait... il sort de cette île de Corse qui, d'un point de vue politique, est tout à fait étonnante, puisque quand Paoli était enfant, donc ça remonte à la jeunesse des parents de Pozzo di Borgo, vous avez un personnage sur lequel on disait beaucoup de bêtises jusqu'à ces dernières années. Et moi, j'adore faire de la généalogie, donc j'ai fait beaucoup de généalogie autour de ce personnage. C'est un certain baron de Neuhof, qui est un Westphalien, qui arrive d'une vieille famille d'origine germanique qui descend des chevaliers teutoniques. Son ancêtre était grand maître de l'ordre teutonique. Et ce Neuhof a fait un mariage étonnant, puisqu'il a épousé une demoiselle anglaise qui était une jacobite vivant en Espagne. Et cette demoiselle a une mère, évidemment, comme tout le monde. Et cette mère est remariée au maréchal de Berwick, c'est-à-dire le fils du roi d'Angleterre, Jacques II, Stuart. Et par conséquent, ce baron de Neuhof, qu'on a présenté pendant 200 ans comme une espèce de roi bouffon, énergumène, qui sortait on ne sait pas trop d'où, qui arrivait d'Angleterre, de Tunis, de Madrid, de Vienne, en fait, il a une belle-mère qui n'est autre que la maréchale de Berwick, c'est-à-dire la bru de Jacques II, Stuart. Et on a donc en Corse ce réseau Stuart qui est extrêmement important, qui est même antérieur d'ailleurs au XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier que des personnages comme Sampiero Corse servaient avec les Écossais, que le frère de Sampiero Corse a été tué d'ailleurs en servant avec les Écossais pour combattre Henri VIII, donc en 1544. Et donc il y a ce lien très particulier avec les Stuart, et Pozzo s'inscrit tout à fait lui aussi dans ce réseau jacobite ancien.
Est-ce qu'il rencontre le futur Charles X ?
Oui. Il rencontre le futur Charles X à Édimbourg, dans l'entourage d'Eliot. Ils vont déjeuner ou dîner ensemble au château d'Eliot. Et Charles X est un personnage qui ne lui plaira jamais à vie, parce que Pozzo di Borgo est tout de même un personnage relativement ambigu. C'est-à-dire que c'est un réactionnaire à certains moments, mais c'est aussi un libéral. Et il a ces deux facettes qui se complètent. C'est-à-dire que en 1791-92, il écrit « La France ne sera jamais plus pareille qu'aucun autre pays au monde, parce que c'est le pays qui a porté les droits de l'homme et du citoyen ». Donc là, il est vraiment du côté révolutionnaire, tant que la révolution n'a pas été la terreur sanglante. Il rencontre le futur Charles X, il rencontre les futurs ultras, il s'en méfiera toujours. Et c'est lui qui, après avoir fait battre Napoléon et avoir fait défiler les troupes du tsar, les troupes du roi de Prusse et les troupes de l'empereur sur les Champs-Élysées le 31 mars 1814, c'est lui qui ira chercher Louis XVIII en Angleterre. Mais avec Louis XVIII, il s'entend bien, parce que Louis XVIII est un roi qui va reconnaître la charte. Et on peut penser d'ailleurs que Pozzo di Borgo a joué un rôle important dans le retour de Louis XVIII. Il est dans le même carrosse que lui jusqu'à Compiègne, jusqu'à Paris. Et il plaide beaucoup pour renouer peut-être la chaîne des temps, comme le dit le roi, mais surtout pour que Louis XVIII ne revienne pas au statu quo de 1789. Il ne faut pas oublier la Révolution. Donc il pèse avec un côté libéral, certain, et il va jouer un rôle important en France. Il va refuser un poste de ministre à Louis XVIII, qui lui dit « qu'est-ce que vous voulez ?» le portefeuille de la marine, de la guerre, de l'intérieur. Il dit « non, non, je veux rester ambassadeur de Russie en France, parce que je pourrais mieux aider la France en parlant au tsar qu'en étant simplement ministre ». Et il va effectivement beaucoup aider la France, notamment pour conserver les objets que les troupes impériales, les tableaux, les vaisselles, tous les objets qui ont été pris dans toute l'Europe napoléonienne, eh bien, s'ils sont toujours au Louvre, c'est parce que Pozzo va peser pour qu'on les conserve. Il va également beaucoup peser après Waterloo, pour que les dettes de guerre soient pas trop élevées et pour que les troupes d'occupation puissent quitter la France assez tôt. Mais alors, vis-à-vis de Charles X, Il n'aime pas du tout les ultras, parce que Charles X, lui, veut vraiment renouer la chaîne des temps. Et Charles X, lui, est à nouveau sacré en 1825, en robe plus ou moins violette. Les Français n'ont plus compris qu'on respecte des coutumes millénaires qui remontaient quasiment à Clovis. Et donc, c'est vrai que cette cérémonie du sacre, ces émigrés qui étaient très fiers du vote du milliard des émigrés, ils ont fait fuir Pozzo. Et Pozzo, de 1824, mort de Louis XVIII, à 1830, eh bien, il se tient à l'écart de Charles X, il se tient à l'écart des ultras, et il se réinvestit en Corse, où il achète les 1000 hectares sur lesquels donc, ses neveux et petits-neveux vont élever le château de la Punte. Et il montre à nouveau qu'il est libéral sous Louis-Philippe, puisqu'il pousse en 1830 Louis-Philippe à devenir, c'est amusant, roi des Français, comme le fameux Théodore de Neuf avait été roi des Corses. Ça a été le premier en Europe à régner sur des gens et non plus sur un territoire. Il n'était pas roi de Corse, mais des Corses. Et on voit l'influence de Pozzo dans ce nouveau titre sur Louis-Philippe, qui est roi des Français en 1830. Et il sert toujours la Russie, ce qui est un cas unique dans l'histoire diplomatique, car il n'a pas la citoyenneté russe. C'est-à-dire que la Russie est représentée en France par quelqu'un qui est en fait français. Mais à l'époque, personne ne dit de Pozzo qu'il est français. On dit qu'il est corse, comme s'il y avait une nationalité corse. C'est assez amusant de voir qu'il est né en 1764. On pourrait presque dire qu'il est génois, par exemple. Eh bien non, on ne dit jamais qu'il est génois. On ne dit pas non plus qu'il est français. On dit qu'il est corse et on accepte la représentation donc en France, aux Tuileries, au Louvre, enfin aux Tuileries, on accepte cette représentation par un sujet français d'une puissance étrangère.
Je reviens à la période où il devient ambassadeur pour la Russie. À vous lire, on sent que il court un peu derrière les événements, ou plutôt derrière un homme, c'est Napoléon.
Oui.
Et il court d'échec en échec,
oui.
Jusqu'à ce que finalement Napoléon chute.
Oui. Oui, c'est quelqu'un qui est un éternel exilé, c'est un éternel errant. Et il reçoit, si je puis dire, des tuiles sur la tête en permanence. Il est évident que 1804, le fils des voisins devient empereur des Français. Bon, il part donc en Russie, c'est merveilleux, il va servir le tsar Alexandre. Et puis, 1807, ce sont les affaires de Tilsit. Tout d'un coup, le tsar va changer de camp et va devenir l'ami de Napoléon. Alors, vous voyez le pauvre Pozzo, qui est très fier de son uniforme de colonel russe, et bien qu'il ne peut pas rester en Russie, le tsar le lui fait comprendre, et il faut qu'il parte en exil ailleurs. Donc, il va aller à Vienne. Et à Vienne, il va dire dans tous les salons de cette aristocratie cosmopolite où se trouve le prince de Ligne, où se trouve sa propre maîtresse à Pozzo, qui est une comtesse autrichienne, hongroise, etc. Il va se trouver à Vienne, en train de dire du mal de Napoléon, sous uniforme russe. Et donc le tsar lui dit, enlevez votre uniforme, vous ne pouvez pas être colonel russe et dire du mal de Napoléon, alors que je suis l'allié de Napoléon, après Tilsit. À ce moment-là, une tuile énorme arrive, et je la raconte donc dans le livre, ça se passe dans le salon du prince de Ligne. Qu'est-ce qu'on apprend en 1809 ? Que Napoléon demande la main de Marie-Louise de Habsbourg, la fille de l'empereur, et va l'épouser. Et donc les femmes, elles se pâment, comme on fait beaucoup à l'époque, elles tombent évanouies carrément dans le salon du prince de Ligne, et Pozzo, on lui dit, ben, vous devez maintenant quitter Vienne, puisque vous êtes chez le beau-père de votre principal ennemi. Alors chassé de Saint-Pétersbourg et de Moscou, chassé de Vienne, il fait un voyage épouvantable qui va durer 8 mois pour aller se réfugier en Angleterre, ce qui le sépare de cette femme qu'il aime visiblement à Vienne. Et ce qui va enfin donner le plus grand lustre à sa carrière, c'est évidemment la campagne de Russie. Il est évident qu'après la Bérézina, eh bien, lorsque Napoléon est battu, il comprend qu'il faut lui donner le coup de grâce et il fait cette remarque très intelligente auprès du tsar et il dit bah, pourquoi Napoléon est devenu ce qu'il est devenu ? Parce qu'il est entré à Berlin, il est entré à Vienne, il est entré à Moscou a été brûlé, donc il faut entrer à Paris. Et à partir de ce moment-là, il va monter, c'est quand même extraordinaire, quand on voit la maison d'origine de Pozzo di Borg et quand on voit le rôle qu'il se met à jouer dans cette Europe, il va monter l'Europe et l'unir totalement contre Napoléon. Il reste un allié à Napoléon, c'est Bernadotte. Et donc, on voit Pozzo qui part à Stockholm en plein hiver. Il traverse la Baltique, des lacs gelés, des rivières. Il est en traîneau, traîné par des chiens. Et il arrive à Stockholm où il fait plusieurs allers-retours, ce qui est quand même pas évident en 1813 avant Leipzig. Et il fait ses allers-retours entre Stockholm, Moscou, Saint-Pétersbourg. Il arrive à détacher Bernadotte, qui est le mari de Désirée Clary, l'ex-fiancé éphémère de Napoléon à Marseille dans leur jeunesse respective, et il fait battre Napoléon 1813-1814. Il dit, il faut surtout pas envoyer Napoléon, je le connais bien, moi, cet homme-là, c'est son discours permanent, faut pas l'envoyer à l'île d'Elbe, il va se sauver. Et effectivement, on l'envoie à l'île d'Elbe et Napoléon s'évade de l'île d'Elbe. Et le coup de grâce, donc, c'est Waterloo. Et alors, à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'est pas très sympathique parce que c'est quand même lui qui impose le choix de Sainte-Hélène. On sait pas pourquoi. Il était dans son bureau. Il descend et tout le monde est surpris en disant « il faut envoyer Napoléon à Sainte-Hélène », première chose. Deuxième chose, il faut lui donner un geôlier qui est Hudson Lowe, qu'il connaît parce que Hudson Lowe était un officier anglais en Corse en 1794. Donc c'est quelqu'un qu'il a connu 20 ans auparavant. Et la troisième chose qui est la moins sympathique, c'est il faut transformer l'Aiglon en prêtre, de façon à ce qu'il soit curé, et il n'y aura donc plus de descendants de la famille Bonaparte, il n'y aura plus de descendants de l'empereur, pour couper donc toute généalogie. Et il faut remettre les Bourbons, alors ça n'est pas un amoureux particulier des Bourbons, mais c'est un amoureux de l'ordre d'Ancien Régime. Et donc il faut ramener la France à ce qu'elle était en 1789, et il faut laisser tomber donc tout ce grand empire napoléonien.
Alors je cite Napoléon à Lascaz, en conseillant à Alexandre de marcher sur Paris, Pozzo di Borgo a par ce seul fait décidé de destiner de la France, de celle de la civilisation européenne, de la face et du sort du monde. Napoléon avait de la haine pour ce personnage ?
Je ne sais pas. Il y a un bon livre également d'une compatriote qui est sorti sur Pozzo, mais qui est un roman, qui n'est pas un livre d'histoire, mais qui est très bien écrit, il y a une dizaine d'années, qui s'intitule « Une haine de Corse ». Et c'est une expression que je n'ai pas voulu reprendre, parce que Pozzo, à la fin de sa vie, écrit notamment à ses neveux « Je n'ai jamais éprouvé de haine pour personne dans ma vie ». C'est presque une sorte de jeu, le chat et la souris. C'est un homme d'Ancien Régime. Et c'est un homme qui, par rapport à Napoléon, c'est assez curieux là aussi pour deux cousins qui ont été élevés dans la même maison, qui sont de cultures totalement différentes. Parce que Napoléon, il ne faut pas oublier qu'en 1778, il avait 9 ans et donc il est parti à Autun. Il est parti ensuite à Brienne. Il a un frère Joseph qui a été élevé à Autun. Son oncle, le cardinal Fesch, a été élevé au séminaire d'Aix-en-Provence. Sa sœur Elisa a été élevée à Saint-Cyr. Les Bonaparte sont de culture française. Napoléon le dit d'ailleurs. Et en 89, il est français. Pozzo, pas du tout. Il a vu tous ses cousins partir sur le continent et lui, il est toujours resté à Ajaccio, entre la citadelle et la rue Malherbe où se trouve la maison Bonaparte. Et les seules études qu'il a poursuivies, mais très brièvement, c'est à Pise, où il a passé un doctorat donc en droit, comme le père de Napoléon auparavant, et comme Joseph, le frère de Napoléon, ils sont tous les trois docteurs en droit de l'université de Pise. C'est quelqu'un qui est de culture italienne, qui n'a pas du tout cette formation française qui a été celle de Napoléon. Et donc, ces deux personnages que tout a mis dans deux camps opposés jusqu'à la fin, encore aujourd'hui. Il y en a un du côté de la Seine qui repose aux Invalides et l'autre de l'autre côté de la Seine qui repose au Père Lachaise dans une immense sépulture, enfin un terrain qui est très très grand, on pourrait y construire une villa, et il y a au centre donc la tombe de Pozzo avec son buste au-dessus, et donc tout oppose les deux hommes, Et Pozzo est même allé jusqu'à proposer une somme astronomique pour acheter la maison natale de Napoléon, et sans doute pour la raser à Ajaccio, à l'époque où il achetait 1000 hectares au-dessus de la ville d'Ajaccio, donc dans ce village d'Alata, où il y a un château aujourd'hui construit par les ducs Pozzo di Borgo, puisque Pozzo n'a jamais été duc. Pozzo a été fait comte par Louis XVIII en 1816. Il a été fait ensuite comte russe par oukase du tsar Nicolas Ier, juste après la mort en 25 du tsar Alexandre. Et ses neveux ont été faits ducs napolitains en 1852. Et alors, c'est ce qui est amusant aujourd'hui, c'est de voir ce château de la Punta qui est construit avec les pierres des Tuileries. Puisque en 1870, lorsque Napoléon III est battu à Sedan, la République est proclamée, les Tuileries vont brûler, et dans les années 1880, au tout début, on va vendre des caisses et des caisses de matériaux, et les nouveaux ducs, donc Pozzo di Borgo, achètent ces caisses, c'est-à-dire tout le pavillon de Flore, et retransportent à Alata les Tuileries, ce qui est un symbole de puissance, au-dessus de la maison natale de Napoléon.
Un dernier mot peut-être, Michel Verger-Franceschi. Vous terminez votre ouvrage en citant la longue notice du mémorial universel, généalogique et biographique par des savants et des historiens et d'autres hommes de lettres. Ce sont les vieux titres du 19e siècle, très longs. Cette notice explique que... Il a joué un rôle décisif sur la constitution de la Belgique. Est-ce qu'on peut en faire le père de la Belgique ?
Alors, on le dit. C'est vrai que dans le livre...
Pour nos auditeurs belges.
Oui, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout assez insisté là-dessus. L'année 1830, bon, il y a la naissance de la Belgique. Il y a en France un désordre absolu. Parce que Charles X part avec la Révolution, Charles X commence à être âgé, il va se réfugier d'abord à Saint-Cloud, et les députés ne savent pas quoi faire. Et ces députés et ces ambassadeurs, surtout le corps diplomatique, ne savent pas s'ils doivent rester en poste. Et c'est Pozzo qui tient bon. Il est ambassadeur de Russie en France, et c'est lui qui dit aux autres ambassadeurs, il faut rester donc en attendant la suite. Et c'est grâce à cela que le nonce apostolique en particulier, donc tout le monde est allé se renseigner à l'ambassade de Russie pour savoir ce que l'on faisait, et il est un peu le chef de la diplomatie en 1830. Alors c'est vrai que j'ai un peu passé, un peu trop sous silence, le rôle... qui fait effectivement de lui, dans le souvenir de beaucoup de Belges, le père de la Belgique d'aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup Michel Verger-Franceschi. Pozzo di Borgo, l'ennemi juré de Napoléon, un ouvrage paru chez Payot, et je répète que votre ouvrage La mer, sur les symboles de la mer, et ainsi que votre ouvrage Henri le navigateur, qui est absolument un très bon ouvrage sur ce personnage tout aussi fascinant, sont sortis en poche aux éditions du Félin. Je remercie Pauline Gauthier, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Je remercie Georges à la technique, en le félicitant tout spécialement, parce que Georges est pour la deuxième fois papa, et je félicite à la fois sa maman. Voilà, je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une émission consacrée. Nous retrouverons Virginie Giraud, spécialiste d'histoire antique, qui va nous parler de la romaine à l'époque antique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour une nouvelle émission des grands entretiens de Storia Voce.